La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre de la présentation d'aujourd'hui est « Œcuménisme forcé ». La vérité devient une option. Le mois précédent, le pape François a déclaré que l'œcuménisme n'est pas une chose optionnelle. D'accord? Et au terme de la catéchèse de ce mercredi, le Saint-Père a lancé un appel en vue de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui aura lieu du 18 au 25 janvier prochain. Donc ça, c'était le mois précédent. Nous sommes aujourd'hui le 16 février 2019, d'accord, date à laquelle cette prédication est donnée et est enregistrée. Et donc, vendredi prochain, avec la célébration des Vêpres en la basilique Saint-Paul hors les murs, commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens sur le thème « Tu recherchera la justice, rien que la justice », a rappelé le pape François au terme de l'audience générale de ce mercredi. Cette année, aussi, nous sommes appelés à prier afin que tous les chrétiens redeviennent une unique famille en cohérence avec la volonté divine qui veut que tous soient un. Jean 17, verset 21, a-t-il ajouté avant de souligner « L'œcuménisme n'est pas une chose optionnel. L'intention sera celle de faire mûrir un témoignage commun et unanime dans l'affirmation de la véritable justice et le soutien des plus faibles au moyen de réponses concrètes, appropriées et efficaces », a conclu le Saint-Père devant les pèlerins. Donc, là, j'ai lu pour vous un article qui a été publié le 16 janvier 2019. Et donc, là, nous voyons que le pape François, eh bien, il décrète que l'œcuménisme n'est pas une chose optionnelle, d'accord? Et ce, après avoir dit que, eh bien, ils sont en train de prier pour que les chrétiens redeviennent une unique famille. OK? Et l'intention, eh bien, est celle de faire mûrir un témoignage commun et unanime dans l'affirmation de la véritable justice. J'aimerais que nous considérions un autre article qui a été publié quelques jours après, c'est le 19 janvier. Et là, cet article est un peu plus consistant, d'accord? Puisque ici, le samedi matin, il a reçu au Vatican la délégation œcuménique de Finlande dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et il a rappelé que l'œcuménisme était un chemin et que cela n'est pas une option. Page suivante. Et là, il dit « L'engagement commun en faveur de l'œcuménisme est une exigence essentielle de la foi que nous professons. Un prérequis qui naît de notre identité, même de disciples de Jésus. » D'accord? Le pape François a rappelé avec force ce qui est au cœur de l'œcuménisme depuis plus de 50 ans. Il a précisé qu'il s'agit d'un chemin irréversible, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une option. D'accord? Et après, il y a un paragraphe où il est parlé du fait d'annoncer l'évangile ensemble, etc. Et le paragraphe d'après, il est dit, « Certes, il a regretté que des questions théologiques et ecclésiologiques séparent encore les chrétiens, mais il reste confiant dans le fait qu'elles seront résolues grâce à ce chemin commun. Sans présager quand et comment cela arrivera, nous sommes entre-temps appelés à faire tout ce que nous pouvons pour favoriser la rencontre et pour résoudre dans la charité les malentendus, les hostilités et les préjudices qui pendant des siècles ont vicié nos rapports, et de reconnaître la contribution de la récente déclaration de la commission de dialogue luthérano-catholique de Finlande sur l'Église, l'Eucharistie et le ministère intitulé Communion in Growth. Page suivante. Et remarquez le paragraphe qui suit après. Il est dit, sur ce chemin commun, les chrétiens peuvent compter sur la Bible. Voilà ce qui est marqué. Sur ce chemin commun, les chrétiens peuvent compter sur la tradition, a estimé le pape. La tradition n'est pas un dilemme, mais un don. Elle nous a été confiée pour nous enrichir les uns les autres, précédée et soutenue par tous ceux qui ont donné leur vie par amour du Seigneur et de leurs frères. Nous sommes appelés à ne jamais nous fatiguer sur le chemin, a-t-il affirmé. D'accord? Et après, le dernier paragraphe dit, revenant sur le thème précis de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est la justice, rien que la justice que tu rechercheras. Et il cite Deutéronome 16, 18 à 19. Le pape a rappelé que l'on ne pouvait pas œuvrer pour la justice tout seul. La justice pour tous se demande et se recherche ensemble. Dans un monde lacéré par les guerres, la haine, les nationalismes et les divisions, la prière et l'engagement commun pour une plus grande justice ne peuvent pas être différés. Dans ce deuxième article que nous venons de lire et qui contient beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de déclarations au sujet de l'œcuménisme, en fait, eh bien, nous voyons là que en dépit des différences théologiques qui existent, eh bien, il faut justement entrer dans l'œcuménisme, d'accord? Et ces différences vont être résolues par la suite, d'accord? Et la manière dont cela va être résolu, c'est expliqué dans le paragraphe de la troisième diapo, c'est la tradition, dit-il. D'accord? Mais nous allons à la lumière des Écritures, revenir sur ces points, d'accord? Car je tiens à, dans cette présentation, qui sera assez basique, je le pense, je tiens à m'adresser à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est à tout type de chrétiens. Okay? Tout type de lecteurs, d'étudiants de la parole de Dieu. Car il y a là, mes amis, que vous le vouliez ou non, des déclarations qui sont quand même assez révolutionnaires. D'accord? Les déclarations que l'on lit là, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe dans le milieu du christianisme, et si vous suivez l'actualité depuis le Concile Vatican II, mais ce genre de déclaration-là, mes amis, notamment à la lumière de ce qui s'est passé le 31 octobre 2017, ce genre de déclaration-là sont de nature à nous montrer le cap qui est pris. Et j'aimerais que nous considérions ce qu'est l'œcuménisme. D'après le dictionnaire Robert, l'œcuménisme est dans la religion, un mouvement favorable à la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. D'accord? Et le deuxième sens, c'est rapprochement de religions, de croyances différentes. Dans ce que le pape déclarait le mois précédent, il était en train de faire allusion à l'œcuménisme, la première définition en fait. D'accord? Donc c'est la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. Okay? Il expliquait qu'il fallait qu'il y ait une famille, une seule et unique famille. Okay? Et j'ai dit que c'est la première définition. Mais il faut savoir que la deuxième définition est également dans l'agenda, d'accord? Dans l'agenda du pape. Une fois que cet œcuménisme sera atteint, la première définition sera atteinte, eh bien, il restera à faire la deuxième, d'accord? C'est-à-dire que le pape sera le représentant de tous les chrétiens, et donc, il pourra ensuite fédérer les autres, le judaïsme, l'islam. Mais d'abord, il faut que la première définition soit complètement, tout du moins que cela soit complètement accompli. Et j'aimerais que nous nous intéressions maintenant, une fois que nous avons considéré la définition de l'œcuménisme, que nous nous intéressions à l'étymologie de ce mot, d'accord? D'où est-ce que ce mot-là provient? Cela est emprunté au latin ecclésial, et que œcuménikos, qui signifie de toute la terre habitée, universelle, et qui est dérivé de œcumène, la terre habitée universelle. Ce qui est emprunté, ok, au grec, œcuménē, ok. Donc, cela est emprunté au grec, d'accord? Donc, dans la langue grecque, nous avons ce terme, ok, œcuménē, qui existe. Et il est intéressant de noter que ce terme grec œcuménē, duquel provient in fine le terme œcuménisme, est présent 15 fois dans le Nouveau Testament. Vous le saviez ça? Ce terme est présent 15 fois dans le Nouveau Testament. Donc, la Bible nous parle de l'œcuménisme. Ok? Ce qu'il nous faut saisir, c'est que l'Écriture nous dit que Satan est le chef du mouvement œcuménique. En effet, en Luc 4, verset 5, il nous est dit « Ensuite, le diable le mena sur une haute montagne et lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. » œcuménē. D'accord? Ok. Donc, Satan lui a montré ça. Satan a montré cela à Jésus. D'accord? Parce que il a usurpé, en fait. Il a usurpé l'autorité à Adam. Et donc, cela est sous son contrôle, en fait. Donc, lorsque nous parlons d'œcuménisme, nous devons nous rendre compte de ça, en fait. OK? Si mon ministère s'appelait, disons, 666, je pense que vous auriez eu un problème. Je pense que nous aurions tous ici un problème, en fait, d'accord? Parce que vous auriez compris, que vous auriez dit, mais en fait, il se réfère à ça, en fait. Donc, c'est ça son origine, donc c'est ça son inspiration, en fait. OK? Ça a du sens, ce que je dis là. Mais mes amis, c'est ça, en fait. L'œcuménisme, le terme tel que on l'a aujourd'hui, il se retrouve dans la Bible, en fait. D'accord? Et donc, la manière dont cela est employé révèle la nature de l'œcuménisme. Okay? Et là, nous voyons que c'est Satan qui domine cela, d'accord? Qui domine le monde. Okay? Et l'emploi de ce terme dans les récits eschatologiques n'est pas reluisant. C'est-à-dire que lorsque les récits qui traitent de la fin des temps, eh bien, emploie ce terme, ce n'est jamais pour annoncer une bonne nouvelle, mes amis. En effet, en Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde, œcuménē, entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Là encore, « monde » est traduit à partir de œcuménē. Donc, il y a, et au passage, ce verset est le verset de base, le verset clé, thème clé, tout du moins, du committing de cette année, d'accord? Christ dit qu'il va garder, ceux qui auront gardé sa parole, il les gardera de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Donc, il va y avoir une tentation qui va venir, mes amis.
Et seuls ceux qui auront gardé la parole de Dieu pourront y résister. Mais pas l'œcuménisme.
Apocalypse 12, verset 9. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, œcuménē, Okay? Ici, monde, en Apocalypse 12, verset 9, est traduit à partir de Wakumene, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On l'a vu en Luc, Luc 4, verset 5, que c'est Satan qui domine, okay, le monde, l'œcuménisme en fait. Okay? Et là, on nous dit que c'est lui qui séduit. D'accord? Et en Apocalypse 16, verset 4, tout du moins Apocalypse 16, verset 14, il nous est dit, « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde. » Wakumene. D'accord? « Monde » ici est traduit à partir du grec « wakumene ». Donc, ils vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, comme nous pouvons le constater, lorsque l'Apocalypse emploie ce terme, ce n'est pas une bonne chose, mes amis. Je ne sais pas si, comme moi, vous le comprenez aussi, de manière aussi claire, mais lorsque nous arrivons à la fin des temps, mes amis, il n'est pas bon de faire partie de l'œcuménisme. La Bible nous le dit, et c'est très clairement marqué, en fait. Hein. Si ce ministère s'appelait 666, et que 666 était notre logo, mais tout le monde aurait dit, mais vous avez un problème, vous êtes qui? Vous êtes des antichrists. Mais aujourd'hui, on a un mouvement qui porte le nom d'œcuménisme, et voilà comment la Bible en parle, et ça ne pose problème, dirons-nous, à la majorité des chrétiens, ça ne leur pose pas de problème. Et plus on avance, moins ça pose de problème, mes amis. Mes amis, je ne sais pas pour vous lequel est le plus dangereux. Ceux qui se revendiquent ouvertement du 666, bien qu'on sait c'est quoi le 666, mais il y a des gens qui se le revendiquent. C'est quoi les plus dangereux? Ceux qui ouvertement sont satanistes ou ceux qui suivent l'ennemi sans même le savoir? C'est quoi qui est le plus dangereux, mes amis? N'est-ce pas d'être sur une mauvaise voie tout en croyant qu'on est sur la bonne voie? Et voyez-vous, le seul rapport que Jésus demanda à ses disciples d'avoir avec l'œcuménisme, c'est l'évangélisation. Vous avez suivi ça? Le seul rapport que Jésus a demandé d'avoir avec l'œcuménisme, il a demandé à ses disciples d'avoir vis-à-vis de l'œcuménisme, c'est de l'évangéliser. Matthieu 24, verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre, Wakumene, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin arrivera. Donc, il faut prêcher l'évangile à toute la terre, d'accord? À l'œcuménisme, d'accord? C'est le seul rapport, mes amis, que les disciples du Christ doivent avoir avec le monde, l'œcuménisme, ok? Il n'y en a pas d'autres, mes amis. Ils ne doivent pas en faire partie. Voyez-vous, à la lumière de ce que nous avons vu, nous nous rendons compte de ce qu'est l'œcuménisme, ok? D'après la parole de Dieu, ce qu'est l'œcuménisme, en fait. Et cela n'est vraiment pas une bonne chose à la fin des temps. Et malgré ça, le pape, eh bien, est en faveur de cela. Et il demande à tout le monde de l'être. Et il cite pour cela Jean 17, verset 21. Prenons ensemble Jean 17, verset 21. Parce que là, j'avais affiché les textes à l'écran. C'était pour vous montrer la présence du terme « wakumene » dans l'Écriture. Jean 17, verset 21. Et là, voilà ce que le pape cite à chaque fois. Et voilà ce que tous ceux qui sont en faveur de l'œcuménisme se bornent à citer. C'est « afin que tous soient un ». Et voilà ce qu'il cite. Oui, oui, l'œcuménisme, c'est bon. Il nous faut, ce n'est pas une option. Parce que Dieu nous a commandé d'être un. L'objectif, c'est d'être un. OK? C'est ça l'objectif. Donc, pour l'atteindre, eh bien, il faut être dans l'œcuménisme. Il faut, voilà, il faut que tout chacun, nous soyons dedans. Mais, mes amis, il y a un contexte. Il y a un contexte à ça. D'accord? Parce que tout texte ôté de son contexte, c'est un prétexte. OK? Lisons du verset, lisons tout le verset 21 jusqu'au verset 23. Afin que tout soit un, comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'il soit aussi un en nous, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Pourquoi Jésus a-t-il prié? Afin que nous soyons unis dans la Trinité? Non. Non. Il a prié afin que nous puissions être unis en Dieu, son Père, ainsi qu'en lui, mes amis. D'accord? Et pourtant, les églises ont rejeté la vérité sur Dieu et son Fils et l'ont remplacé par le Dieu païen romain qu'est la Trinité. Le Dieu païen de l'Église catholique romaine qu'est la Trinité. Donc, lorsque nous rejoignons le mouvement œcuménique, c'est un appel, en fait, à l'idolâtrie, en fait. D'accord? Et si on est véritablement des étudiants de la parole de Dieu et qu'on veut véritablement adorer Dieu en esprit et en vérité, mes amis, nous ne pouvons pas nous joindre au mouvement œcuménique. Ça, c'est déjà un premier point. Un premier point, d'accord? Où il y a un problème avec cette démarche d'unité. OK? Et à vrai dire, c'est la première partie du premier point, le petit A, pourrait-on dire. Le petit B, mes amis, se trouve en ce qu'il a expliqué qu'il y a des différences théologiques, d'accord, et que cela est regrettable, mais que si nous empruntons la voie, je paraphrase, eh bien, ce chemin-là, que l'écuménisme, OK, eh bien, cela sera résolu ensuite, d'accord. Et vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Qu'est-ce qu'il a cité dans son commentaire? Là, l'écriture? La Bible? La tradition. La tradition. Et il a dit oui, la tradition. Et mes amis, Matthieu 15, verset 3 à 9. Lisons Matthieu 15, verset 3 à 9. Mais il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ?» Car Dieu a donné ce commandement, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera, soit puni de mort, tout du moins. Mais vous vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, ce peuple s'approche de moi, de la bouche, et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Il y a là encore un problème avec le mouvement œcuménisme, car ce mouvement exige de la part de ceux qui s'y engagent de mettre de côté l'écriture, afin de pouvoir, OK, rentrer dans cette danse, en fait, avec le pape. Est-ce que nous nous rendons compte de cela, de la gravité de cela? Voyez-vous, au début de la présentation, j'expliquais que cette présentation serait
assez large, okay, assez basique, de manière à ce que le plus grand nombre de personnes puissent comprendre ce sujet, d'accord, quels que soient leurs horizons, quels que soient leur expérience religieuse, quel que soit leur niveau de foi, le plus basique que possible, afin que nous puissions comprendre, eh bien, là où se trouve le problème avec l'œcuménisme. Mais maintenant, j'aimerais être un peu plus pointu, un peu plus précis, et quelque chose qui pourrait plus parler à ceux qui sont ici. Vous voyez ce que le pape a déclaré ici, là, dans l'article au mois précédent? Savoir que, on va d'abord s'unir, OK, sur l'œcuménisme, et ensuite, OK, nous allons régler les problèmes doctrinaux après, d'accord? Je vous rappelle, hein? Certes, il a regretté que des questions théologiques et ecclésiologiques séparent encore les chrétiens, mais il reste confiant dans le fait qu'elles seront résolues grâce à ce chemin commun. Sans présager quand et comment cela arrivera, nous sommes entre-temps appelés à faire tout ce que nous pouvons pour favoriser la rencontre et pour résoudre dans la charité les malentendus, les hostilités et les préjudices qui pendant des siècles ont vicié nos rapports. Petit rappel. Mes amis, est-ce que vous savez que ce langage-là, l'esprit qui est derrière ça, cela n'est pas cantonné seulement que à l'extérieur, pourrais-je dire. En ce moment même, aux États-Unis, des pasteurs adventistes du septième jour qui ont rejeté la Trinité sont en train de faire la même chose, mes amis. À l'heure où je vous parle, il y a quelque chose, il y a une publicité qui est en train de tourner pour que tous les pasteurs puissent se joindre à une assemblée qu'ils organisent. De manière à ce qu'on puisse se rassembler, on puisse prier ensemble, on puisse communier, sans parler de doctrine. Parce qu'il y a des problèmes, mes amis. Il y a des problèmes dans le mouvement le mouvement de restitution du véritable message adventiste. Il y en a qui ne croient plus du tout en l'esprit de prophétie. Il y en a qui ont une définition du péché qui est complètement inverse, opposée à ce que la Bible déclare. D'accord? Et nous avons des pasteurs, un petit noyau, qui se sont mis en tête de faire exactement ça, en fait. Et on se rassemble, on ne parle pas de doctrine, on s'unit d'abord en esprit, et après, on va s'unir dans la doctrine. Et c'est le même langage que le pape, en fait. Hein. Je peux vous dire, hein, j'ai reçu l'invitation, d'accord? Ah oui, je l'ai reçu! J'ai reçu l'invitation. Et j'ai écrit à ce frère-là. Je lui ai dit, tu commets la plus grave erreur que ce mouvement n'ait jamais connue. Mais mes amis, il y a un problème à dire que nous devons d'abord nous unir en esprit et ensuite dans la doctrine. À dire oui, nous devons rechercher l'unité de l'esprit. En fait, on a l'impression que, comme si que, il faut que nos esprits soient d'abord en harmonie, on ait les mêmes pensées, et ensuite, on aura les mêmes doctrines, en fait. Mais mes amis, c'est oublier une parole de Jésus, en Jean 6, verset 63, qui dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Comment voulons-nous avoir l'unité d'esprit si on n'est pas d'accord, en fait, dans ce que Jésus nous dit, en fait? Et rappelons-nous de ce que nous avons vu lorsque nous avons étudié la pluie de l'arrière-saison. Qu'avons-nous vu? Nous avons vu que la pluie de l'arrière-saison, mes amis,
C'est un message avant tout. C'est un message. D'accord ? Il y a des gens qui pensent que oui, c'est une genre d'expérience sensorielle avec des manifestations surnaturelles et que c'est ça la plus dernière saison. Mes amis, la plus dernière saison, avant tout, c'est un message. Donc, vouloir s'unir en esprit, vouloir d'abord avoir une même pensée et ensuite nous allons résoudre les problèmes théologiques, c'est un piège, mes amis. C'est un piège. Et pendant que le pape François parle de la sorte, pendant que le pape François est en train d'annoncer ces choses-là, il ne confesse toujours pas les erreurs que son Église a commises durant des siècles. Il ne confesse toujours pas l'idolâtrie qui est en cours dans l'Église catholique. La présence d'un faux Dieu, la présence des statues, le changement du quatrième commandement, ok? Et la liste sera encore longue. Et toutes les doctrines antibibliques qui sont présentes. Sans compter les actions qui ont été menées. Mais on doit d'abord s'unir. Rappelez-vous que c'est la tradition qui va mener. Et qui dit tradition? L'Église catholique, mes amis. Lorsqu'il parle de tradition dans l'article, c'est l'Église catholique, en fait. Et il y a un quatrième point. Et ça, c'est le cœur même du, je dirais, de la présentation. Ou tout du moins, c'est ce qui vient vraiment montrer le problème qu'il y a avec cela. C'est que, ici, lorsque nous parlons d'œcuménisme, il faut comprendre que cela impacte la liberté religieuse. Mais il faut bien comprendre la chose. Dans les organisations religieuses, les personnes qui sont en charge justement des dialogues interreligieux, okay, ce sont les personnes qui sont en charge du pôle de la liberté religieuse, en fait. D'accord? Donc, lorsque l'on parle œcuménisme, cela est directement lié avec liberté religieuse. Ce n'est pas censé l'être, d'accord? Mais malheureusement, c'est comme ça, en fait. D'accord? C'est comme ça. Généralement, c'est celui qui est responsable de la liberté religieuse qui va avoir tendance et qui sera poussé, que l'on va pousser à être le maillon qui va faire le contact avec le mouvement œcuménique. Lorsque le pape dit « l'œcuménisme n'est pas une option », cela signifie quoi, mes amis? Cela signifie quoi dans le fond, en fait? L'objectif est d'avoir une église. D'accord? Un seul mouvement. Et par là, le pape est en train de dire la chose suivante, en fait. C'est que si vous vous joignez à nous, eh bien, vous allez jouir de la liberté religieuse. D'accord? Et oui, puisque ce n'est pas une option, mes amis. Rappelez-vous des termes qui ont été aussi employés. Cela est irréversible. Cela est irréversible. Ce n'est pas une option, mes amis. Lorsque vous achetez une voiture, vous pouvez choisir qu'il y ait telle ou telle possibilité. Vous pouvez avoir un toit ouvrant. Vous pouvez choisir la couleur, les jantes et encore d'autres choses, d'accord? Après, il y a des options aussi qui sont payantes, d'autres qui ne le sont pas. Mais vous pouvez choisir différentes choses et c'est à vous de voir. C'est au choix, en fait. C'est au choix. Le pape François a dit que l'œcuménisme n'est pas une option. Et mes amis, rappelez-vous qu'il dit ça près de 2 ans, on va bientôt, dans quelques mois, ça fera 2 ans, après le 31 octobre 2017, là où ils ont, soi-disant, fêter l'anniversaire, le 500e anniversaire de la Réforme, où en réalité, ils ont fêté la fin de la Réforme, d'accord? Et ça veut dire que c'est ce qui va se passer, en fait. Et c'est ce qui va se passer. Mais si vous ne vous joignez pas à nous, c'est donc que vous allez parler contre nous, alors. Et donc, vous n'allez pas jouir de la liberté religieuse. Et voilà le message qu'il y a derrière ça, mes amis. C'est que tous ceux qui ne vont pas rentrer dans ce mouvement œcuménique, mes amis, seront persécutés. Rappelez-vous d'où vient l'œcuménisme dans la Bible. Et rappelez-vous ce que la Bible dit concernant l'œcuménisme. On a vu que c'est Satan qui est derrière ça, qui est à tête de ça. Dans les récits eschatologiques, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Et que le seul rapport que les croyants doivent avoir avec l'œcuménisme, c'est-à-dire ceux qui sont dedans, c'est de les évangéliser. Et c'est tout, mes amis. Il n'y a pas d'autres contacts qu'il faut avoir. Mais là, nous voyons que l'apôtre Paul, quant à lui, nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est véritablement ne pas chercher à faire partie et ne pas être, en fait, dans le mouvement œcuménique, sous toutes ses formes, en fait. Mais là, aujourd'hui, le pape fait comprendre de manière douce, comme il sait si bien le faire, et que ça ne se passera pas ainsi. Parce que rappelez-vous dans l'article qu'il parlait de justice. Ça veut dire que c'est par l'œcuménisme que la justice sera établie, en fait. Mais mes amis, lorsque vous êtes contre la justice, lorsque vous n'êtes pas en faveur de la justice, vous n'êtes pas quelque chose comme hors la loi, c'est ça? C'est bien ça, je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas, non. Mes amis, ceux qui ne seront pas dans le mouvement œcuménique seront des hors la loi. Et là-dessus, vous pourriez vous dire, pour certains d'entre vous, alors je rappelle, cette présentation est destinée à un public large, ouvert. Certains d'entre vous qui croyez fermement au retour de Jésus, à sa seconde venue. Autrement dit, certains d'entre vous qui êtes des adventistes, okay? Parce qu'un adventiste, c'est quelqu'un qui croit dans le retour de Jésus, okay? Et puis aussi qui observe le sabbat, donc du coup, vous êtes un adventiste du septième jour, okay? Eh bien, vous pourriez vous dire que « Ah, mais je suis en sécurité !» Je suis en sécurité, puisque dans mon église, okay, qui est l'église qui a la plus réformée que les autres, qui est l'église la plus protestante de toutes, eh bien, nous ne sommes pas dans le mouvement œcuménique, okay, et notre église n'est pas concernée par ce genre de choses-là, et donc nous serons en sécurité, d'accord? Alors, j'aimerais m'adresser pendant quelques instants à ces personnes-là. Rappelez-vous que tout à l'heure, j'ai cité à deux reprises le 31 octobre 2017. Ce jour-là, en Russie, lors d'une commémoration du 500e anniversaire de la Réforme, il y avait des dignitaires religieux qui étaient rassemblés. Et parmi eux était présent le président de la Conférence générale des Adventistes du septième jour avec son épouse, ainsi qu'un autre qui le traduisait. Et là, on les voit bien, ok? Et ils étaient derrière, d'accord, les dignitaires orthodoxe. Ok. Remarquez bien les cravates qu'ils portent. Remarquez bien. Hein? Cravate bleue, cravate rouge. Remarquez les rideaux aussi. Hein? Tu peux revenir la diapo en arrière. Remarquez les rideaux. Hein? Ok. Maintenant, on va à la troisième image. Ok. Ils sont au même endroit. Hein? Les mêmes hommes, les mêmes cravates, les mêmes rideaux. D'accord? Ok. Et vous savez là ce que le président de la conférence générale des adventistes du septième jour a déclaré. Il a déclaré, c'est un grand privilège en ce jour, 500 ans après le commencement de la réforme, où il semble y avoir tant d'instabilité et d'épreuves dans le monde, de continuer la réforme dans nos propres cœurs. Déclara Wilson lors d'une courte allocution devant 200 dirigeants assemblés pour les 500 ans de la réforme le 31 octobre. Et j'ai mis le lien en bas. Et pour ceux qui savent parler l'anglais, vous pouvez voir que j'ai traduit une partie, un paragraphe, et vous avez la suite de l'article. D'accord? Et de manière intéressante, dans les journaux adventistes, lorsque vous faites vos recherches, vous voyez qu'ils ne mettent pas les photos où on a les dirigeants adventistes avec les autres représentants. Il le montre comme s'en train de parler, comme si que il a dit ça devant des adventistes. Mais mes amis, les photos précédentes montrent dans quel contexte il était. D'accord? Et ça, j'ai observé ça. Ils ne mettent jamais des photos œcuméniques dans les magazines. Jamais ils le font. Ou presque jamais, en tout cas. Mais je n'ai pas vu beaucoup. C'est quand vous faites vos recherches sur des sites extérieurs que là, vous voyez le contexte, en fait. Mais mon but n'est pas de parler de photos, de cravates, d'images. C'était juste pour vous montrer que c'était bien les mêmes choses. Le point que je veux souligner ici, c'est que le pasteur Ted Wilson a dit que, eh bien, il faut continuer la réforme dans nos propres cœurs. Il a déclaré ça devant, il y avait des adventistes dans la salle, mais devant d'autres dignitaires religieux. Mes amis, imaginons que jusqu'à présent, ok, là il y a un carrelage ici, nous sommes ici, mais il y a une ligne de carrelage ici. Imaginons que je marche ici sur cette ligne-là et que je vous dis que maintenant, à partir de maintenant, je vais continuer à marcher, mais sur la ligne d'à côté. Est-ce que je continue à marcher de la même manière? Est-ce que je suis la même trajectoire, la même direction? Non, je continue bien à marcher, mais j'ai changé de ligne. C'est ce qu'il dit, en fait. C'est ce qu'il dit. Oui. De continuer la réforme dans nos propres cœurs. Mes amis, l'objectif de Dieu, c'est de nous sanctifier à l'intérieur de manière à ce que nous puissions ensuite, une fois sanctifiés, proclamer la justice. Et c'est ce que les réformateurs ont fait. Ils ont reçu les vérités, ils les ont acceptées et ils ont ensuite mené la réforme à l'extérieur. Ok? Mais là, ce que le pasteur Ted Wilson est en train de dire, c'est la chose suivante. C'est que jusqu'à présent, on était en train de protester à l'extérieur. On avait sorti de manière figurée, hein, je ne suis pas violent, je ne prône pas l'utilisation des armes, etc. Mais on avait nos kalachnikov et nos fusils, et on se tirait les uns sous les autres avec, à coups de versets bibliques et à coups de prédications les uns contre les autres. Mais aujourd'hui, on arrête ça. On arrête cette réforme-là, on arrête de dénoncer, on arrête de dire que voilà, on arrête. Mais on va faire ça, mais dans nos cœurs. Ça veut dire qu'on va se concentrer sur nous-mêmes, et puis chacun va s'occuper de son petit jardin, parce qu'on a suffisamment à faire comme ça, et voilà. Je pense que vous vous rendez compte du problème qu'il y a à ça. Ce n'est pas du tout de la réforme, là, mes amis. Ou tout du moins, c'est une réforme carencée, limitée. Voilà comment a parlé le président de la conférence générale du 7e jour, le 31 octobre 2017. Vous êtes le responsable d'un mouvement qui proclame, revendique, prêcher le message des trois anges. Et dans le message des trois anges, il y a « Babylone est tombé », lequel est lié au quatrième qui vient ensuite, qui se joint au troisième et qui dit « Sortez du milieu d'elle ». Si vous prêchez vraiment le message des trois anges, mes amis, vous ne pouvez pas vous rendre devant ces gens-là et leur dire ça comme ça. Non, il faut avoir une parole, bien qu'en étant courtois, gentil, mais il faut leur dire les choses très clairement. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Eh bien, nous allons voir pourquoi. Beaucoup d'adventistes du septième jour se targuent, ok, que ah oui, mais mon église n'est pas membre du Conseil œcuménique des églises, le COE, d'accord? Elle n'est pas membre. Elle est juste observatrice. Est-ce que vous savez qu'il y a un autre organisme et qui est qui est aussi important en influence et en puissance que le Conseil œcuménique des Églises, qui s'intitule le Forum chrétien mondial. D'accord? Et ce mouvement, cette organisation dont le site est le suivant. Ok, il est disponible en anglais, en espagnol, en français. Lorsque vous allez dans la partie participants, ok, vous avez la liste des participants. Ok, et lorsque vous descendez, remarquez qu'est-ce qu'on voit au milieu. Église Adventiste du Septième Jour, SDA General Conference, SDA General Conference, donc USA, SDA General Conference Kenya, and SDA General Conference USA. Et ça, c'est une organisation œcuménique, mes amis. Donc, jusqu'ici, nous voyons que l'Église adventiste du septième jour n'est pas si épargnée que ça. Mais allons encore plus loin. Nous avons ici, lors d'une réunion qui a eu lieu... Je n'ai pas la date en tête, mais lors d'une réunion de ce forum chrétien mondial, eh bien le pasteur Ganoun Diop, ok, qui est le responsable de la liberté religieuse, des affaires publiques et de la liberté religieuse, d'accord, et il était présent, d'accord, puisqu'ils sont participants, ok, ils sont participants. Et donc, il a bien évidemment donné une allocution. Et si, donc, Pasteur Ganoun Diop était dans ce rassemblement, ok? Et il est le président de la liberté religieuse. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mes amis. Lorsque vous êtes responsable liberté religieuse, dans les organisations religieuses, dans les dénominations, dans les églises, eh bien, vous êtes celui qu'on envoie être le lien œcuménique de l'église, en fait. D'accord? Vous êtes celui qu'on envoie être le lien œcuménique. Mais ce n'est pas tout. Ce même Ganoun Diop, ok, et n'a pas de problème à avoir des échanges chaleureux avec le pape François. D'accord? Est-ce que vous rendez compte aujourd'hui de ce que signifie réellement la liberté religieuse pour les dénominations, les églises mondiales? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie, en fait, liberté religieuse? c'est la même vision en fait que le pape a en fait. Ça veut dire que si vous parlez avec nous, si vous ne parlez pas contre nous, mais que vous discutez avec nous et que vous allez dans notre sens, il n'y a pas de souci. Vous pourrez jouir de la liberté religieuse. Il y a vraiment un problème en fait. Et je tiens à le dire ici, et je tiens à m'adresser tout particulièrement aux personnes qui se croient en sécurité dans la dénomination des Adventistes du septième jour. Vous dormez sur un champ de mine, mes amis. Vous faites dodo sur le champ de mine. Et ça va exploser. Et vous serez surpris. Vous serez surpris. Vous aurez des surprises. Comme les autres, d'ailleurs. Parce que vous êtes dans le même bain. C'est le même bain, mes amis. Vous avez vu la distance qui sépare ces deux hommes? Quelle distance qu'il y a? Quelle distance qui sépare Ganyu Ndjap et le pape? 0 millimètre, mes amis. 0 millimètre. Of the time, February, donc le 19 février 1894, paragraphe 4. L'Église qui tient à la parole de Dieu est irrémédiablement séparée de Rome. Les protestants étaient autrefois séparés de cette grande Église d'apostasie, mais ils se sont approchés plus près d'elle et sont toujours sur le chemin de la réconciliation avec l'Église de Rome. Rome ne change jamais. Ses principes n'ont pas du tout changé. Elle n'a pas diminué la brèche entre elle et les protestants. Ce sont eux qui se sont avancés. Mais qu'est-ce que cela prouve concernant le protestantisme d'aujourd'hui? C'est le rejet de la vérité biblique qui pousse les hommes à l'infidélité. C'est une église apostate qui réduit la distance entre elle et la papauté. Slide précédente. Combien de distance sépare ces deux personnes? 0 millimètre. L'esprit de prophétie dit que lorsqu'il y a 0 millimètre qui vers lequel vous tendez, lorsque vous réduisez la distance qui vous sépare de Rome, mes amis, distance qui doit être irrémédiable en fait, il ne faut pas enlever puisque Rome ne change jamais. Vous êtes une église apostate en fait. Une église apostate, tombée, déchue en fait. Il y a une différence entre l'apostasie, être dans l'apostasie, d'accord, et être une église qui expérimente ou qui connaît l'apostasie, et être une église apostate en fait. Apostate, c'est que vous êtes déchu, tombé. C'est Babylone en fait. Donc, lorsqu'il n'y a pas de problème pour les dirigeants religieux à librement eh bien, s'inscrire dans les mouvements œcuméniques, okay, et à se mettre sous la couverture du pape pour eh bien, expérimenter la liberté religieuse, mes amis, il y a un problème. Il y a un problème. La Bible nous dit en psaume 119, verset 142. Psaume 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi n'est que vérité. Le pape semble partir de bons sentiments, pourrions-nous dire, car il veut la justice, d'accord? Et il dit qu'on ne peut pas rechercher la justice de manière individuelle, non. C'est ensemble qu'il faut la rechercher, de manière à ce qu'il puisse y avoir une justice aussi qui bénéficiera pour l'ensemble. Mais remarquez que cette unité n'est pas basée sur la justice divine. Et pourtant, c'est un représentant religieux, d'accord? C'est un représentant religieux, mais il n'en a que faire de la loi de Dieu. Car la justice de Dieu, c'est sa loi en fait. Et c'est ce que nous dit le verset que nous venons de lire. Sa justice, c'est sa loi. Donc, si nous voulons vraiment voir la justice régner sur terre, il ne nous faut surtout pas suivre l'exemple du pape qui a changé la loi de Dieu et qui encourage le monde entier à le faire. En quoi faisant? En disant au monde, venez, unissons-nous derrière la tradition et ensuite nous allons régler ces problèmes doctrinaux. Lorsque vous faites ça, mes amis, la suite, c'est que vous allez suivre la tradition. Or, la tradition de celui qui dit que l'œcuménisme n'est pas une option, c'est notamment l'adoration de la Trinité et l'observation, la sanctification du premier jour de la semaine. Voilà où mène l'œcuménisme, mes amis. Voilà où mène l'œcuménisme. À considérer que la vérité devient une option, en fait. Ta justice est une justice éternelle. Et ta loi n'est que vérité. Lorsque vous dites que la vérité, tout du moins, lorsque vous dites que l'œcuménisme n'est pas une option, à la lumière de tout ce que nous venons de voir là, mes amis, c'est une... Vous dites tout simplement, en fait, que la loi de Dieu devient une option, en fait. Voilà ce que ça veut dire. La loi de Dieu devient une option. Or, cette loi est éternelle. C'est une justice éternelle. Mais le pape est tacitement en train de dire non. L'œcuménisme n'est pas une option. Et donc, avec tout ce que ça implique, la loi de Dieu deviendra et sera une option. C'est pour cela, mes amis, que nous devons faire un choix. Et le choix doit être très clair, car la Bible nous dit que la terre entière dont on l'a vu, c'était traduit par œcuménique dans certains passages, d'accord? Elle est séduite. Elle est séduite par qui? Par le diable, par le dragon. Et en Apocalypse 13, on nous dit que ils vont suivre la bête. C'est par l'intermédiaire de la bête, de la papauté, mes amis, qui aura son image, eh bien, que la tradition de l'homme de péché, du pape, sera imposée, mes amis, et que la loi de Dieu deviendra une option. C'est pour cela, mes amis, que si jusqu'aujourd'hui, vous avez eu une vision, je dirais, positive de l'œcuménisme, une vision, que cela avait un caractère assez sympathique. J'espère que vous avez ouvert vos yeux en ce matin et que vous avez pu vous rendre compte du danger que cela représente pour votre âme. Et un texte pour conclure. Car nous n'avons pas à craindre, mes amis, ou quoi que ce soit. Nous n'avons pas à craindre de voir que, étant donné que cette, en Ésaïe 51, étant donné que ce mouvement œcuménique nous emmène directement en contradiction et à la parole de Dieu, nous conduit directement dans la désobéissance à la loi de Dieu, et que de ce fait, c'est la privation de la liberté religieuse qui attend celles et ceux qui ne vont pas rentrer dans cette danse œcuménique, eh bien, nous pourrions nous dire, oui, mais qu'est-ce que je vais devenir Parce que, mes amis, voyez-vous, si nous voulons persévérer jusqu'à la fin et être celui dont Jésus parle, ce dont Jésus parle lorsqu'il dit, tout du moins, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si on veut être celui-là dont Jésus parle, mes amis, qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé et qui passera à travers ces temps de troubles, mes amis, qui arrivent devant nous, c'est maintenant que nous devons prendre une position vis-à-vis de ces choses. C'est maintenant que nous devons résoudre nos cœurs de ne pas faire de compromis, en fait. Car si maintenant nous faisons un compromis, mes amis, sur quelque point que ce soit, lorsque la menace va arriver, mes amis, on va fléchir tout de suite. Lorsqu'on va vous dire que, mais vous ne pouvez pas acheter à manger pour votre enfant. Et quand vous allez réaliser que vous ne pourrez pas payer votre loyer. Que vous allez réaliser que vous ne pouvez pas payer la rente, la traite de votre voiture que vous avez achetée. Et que votre téléphone est coupé. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous cette semaine, on vous dit ça. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Parce que la Bible nous parle de ça, en fait. Lorsque cette crise-là va arriver sur nous, mes amis, lorsque la bête, la marque de la bête sera imposée, lorsque l'observation du dimanche sera forcée, mes amis. Tous ceux qui ne seront pas rentrés dans la danse avec le pape et ceux qui le suivront, eh bien, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Donc, est-ce que nous sommes prêts à ça? C'est maintenant que nous devons réfléchir à ça et prendre une décision. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Car en Ésaïe 51, au verset 7, il nous est dit, en Ésaïe 51, verset 7, pour ceux qui auront choisi de rejeter l'œcuménisme et d'observer la loi de Dieu, cette promesse est pour eux. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi, ne craignez pas l'opprobre des hommes. Et ne soyez point effrayés de leur injure. Mes amis, ceux qui connaissent véritablement la justice de Dieu sont ceux dans le cœur desquels se trouve la loi de Dieu. Ceux dans le cœur desquels Dieu aura réussi à inscrire sa loi. Et ce n'est pas dans le mouvement œcuménique, mes amis, que l'on forme les gens. Que l'on conseille aux gens, que l'on enseigne les gens à avoir la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Bien au contraire, c'est la tradition de l'Église catholique romaine que l'on donne. Et c'est pour cela que nous devons nous résoudre, mes amis, aujourd'hui, à nous démarquer de cela. Et en toute douceur, avec amour, avoir une position claire vis-à-vis de cela, en fait. Vis-à-vis de ces choses. Et dire aux gens que, eh bien, moi, je choisis de servir Dieu en esprit et en vérité. Moi, eh bien, il vaut mieux craindre. C'est quoi que dit l'apôtre? Il vaut mieux à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mes amis, puissions-nous avoir cet esprit dès maintenant, car aujourd'hui, on nous dit que la vérité, l'œcuménisme n'est pas une option. Demain, ce sera quoi? Si aujourd'hui on vous dit que l'œcuménisme n'est pas une option, demain, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ne serait-ce pas quelque chose comme « Oh, vous ne pouvez plus rien acheter? C'est trop tard pour vous? » Mes amis, les choses avancent. Et notre préparation pour la crise finale, elle aussi doit avancer. Et j'espère que cette présentation vous aura permis de vous rendre compte que pendant que nous dormons, l'ennemi ne dort pas. Et Dieu aura un peuple. Que vous le vouliez ou non, que vous en faisiez partie ou non, Dieu aura un peuple sur terre qui va garder les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Et ma prière pour vous et moi est que nous en fassions partie. Et ce peuple, mes amis, qui gardera les commandements de Dieu, la foi de Jésus, il aura dit non à l'œcuménisme. Il aura dit non à l'œcuménisme. Il aura quitté toutes les églises de Babylone, toutes les églises apostates. La dénomination des Adventistes du septième jour, y compris, mes amis, il l'aura quitté parce qu'il ne pourra pas rester fidèle s'il reste là-dedans, mes amis. Donc, puisse Dieu nous aider à ouvrir nos yeux, à nous réveiller et à véritablement chercher à nous préparer et à être prêts, car le maître est à la porte. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.